Alors, s'il y en a qui viennent juste de temps en temps visiter l'église et qui nous voient à chaque fois ici, on n'est pas de cette église, hein. Mais c'est vrai qu'on a eu trois occasions dernièrement d'être avec vous et c'est toujours une joie d'être ici. L'accueil, l'amour et de voir cette église remplie ce matin, de présenter ces deux enfants, c'est un peu particulier pour moi parce que je connais Priscilla depuis qu'elle a 10-11 ans. J'étais son moniteur de l'école du dimanche à l'époque. Je l'ai porté sur mes épaules et de voir aujourd'hui ces beaux petits, cette famille qui marche dans la foi et qui sont des piliers de cette église, c'est une grande joie. Alors, parce que évidemment, rajouter peut-être 5 ou 10 minutes à après-midi, étant donné qu'on a décalé l'heure, vos estomacs vont crier, donc on va quand même pas trop perdre de temps. Et on va lire un texte ce matin. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, un texte que vous connaissez et je prie qu'il puisse nous encourager, nous édifier chacun dans notre marche et dans notre foi. Seigneur, bénis ta parole, merci déjà pour ta présence, pour ces chants, pour tout ce qu'on a vu, entendu. Et juste encourage les cœurs de chacun ici présent. Donne-nous de l'intelligence pour comprendre aussi. Nous te le demandons en ton nom. Amen. Le premier don que Dieu a donné à l'humanité, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre. Nous sommes libres, libres de croire ce qu'on veut croire, libres de penser ce qu'on veut penser, libres de faire ce qu'on veut faire. Alors après, il y a certaines limites à cette liberté. C'est qu'il y a des conséquences. Hein, si vous voulez, on était hier au Mont Salève, si vous voulez sauter du Mont Salève, vous êtes libre de le faire, la conséquence, c'est que vous risquez de mourir. D'accord ? Donc il y a des choix qui ont des conséquences, et qui sont plus ou moins importantes, mais voilà, c'est la liberté. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Et j'aimerais aiguiser votre intelligence spirituelle, votre intelligence naturelle aussi, parce que les deux vont ensemble, ce matin, réfléchir. Non, c'est le dimanche, on n'est pas là pour réfléchir, juste dis-nous quelque chose et puis on passe à autre chose. Non, l'église c'est un endroit où on est là pour être enseigné, pour être encouragé, pour être corrigé quelquefois, pour être stimulé intellectuellement aussi, à réfléchir, à penser. On est dans un monde qui nous dit les choses et on est devant une télévision, on gobe les choses. Non, on doit être actif, on doit réfléchir, on doit penser. Penser pour nous, penser à notre vie, réfléchir à la vie. Et ce que je voulais venir sur ce dicton qu'on entend souvent quand on parle dans la rue. Aujourd'hui, à notre époque en tout cas, on entend souvent, les gens disent « je ne crois que ce que je vois ». D'accord ? Alors ici, on est dans une assemblée, peut-être tout le monde n'est pas chrétien, mais la majorité, je pense, donc on sait ce que c'est la foi. Mais en fait, c'est pas vrai. Les gens ne croient pas que ce qu'ils voient. Ils le disent, mais ce n'est pas la vérité. Ils croient ce qu'ils veulent croire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on croit, on l'a jamais vu. Napoléon, vous l'avez vu, vous ? Bon, c'est un Français, mais c'est pas grave. Napoléon, vous l'avez vu, vous ? Vous l'avez pas vu. Pourtant, vous croyez bien qu'il a existé. N'est-ce pas ? Juste ça. Vous savez qu'aujourd'hui, Regardez le bout de votre doigt. Vous pouvez le faire. Regardez le bout de votre doigt. Est-ce que vous savez que sur le bout de votre doigt, le centimètre carré du bout de votre doigt, il y a entre 100 et 1 million de bactéries au bout de votre doigt? Vous le savez, ça? Vous le savez, ça? Vous me croyez ou vous me croyez pas? C'est la vérité, hein? C'est la vérité. Mais on le voit pas. Mais aujourd'hui, avec des microscopes, on a découvert la bactérie. On a découvert les microbes. Et on sait que certains sont, évidemment, sont destructeurs, mais on en a besoin, en tout cas, sur notre corps tout entier, on a des millions, milliards de bactéries qui se promènent et qui sont nécessaires. Ah, vous savez que la peau, elle meurt, hein, elle a besoin d'être régénérée, elle change. Donc c'était juste un exemple pour dire que ce n'est pas vrai, on ne croit pas que ce qu'on voit. Et ici, le verset 3 qui m'intéresse, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. J'aimerais vous dire que, je disais ça à Montpellier dernièrement, vous vous rappelez quand vous étiez à l'école, les ensembles, on faisait à l'école en primaire, on faisait les patates, vous vous rappelez les patates? Vous vous rappelez, on faisait des ensembles avec la appartient, n'appartient pas, inclus, n'est pas inclus. Vous vous rappelez de ça? D'accord? Alors, imaginons que le monde visible, ça c'est la patate du monde visible. D'accord? Voilà. C'est ce qu'on voit. Ok? Et maintenant, je vais vous faire l'ensemble de ce qu'on ne voit pas. Et ce qui est visible, c'est une toute petite chose qui est inclue dans ce grand ensemble qu'on ne voit pas. Et vous voyez que si on vit et on se limite à « je ne crois que ce que je vois », notre vie est très limitée et très petite en réalité. Ce qui est invisible, la Bible le dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18, « ce qui est visible est passager, ce qui est invisible est éternel ». Et nous devons, en tant que croyants, alors je m'adresse en particulier aux croyants, nous devons nous concentrer sur ce qui est invisible. Et ne pas nous laisser effrayer par ce qui est visible. Ça ne veut pas dire qu'on vit dans le déni d'une réalité. Mais on a besoin d'avoir la dimension de ce qui est invisible pour comprendre et pouvoir voir notre réalité, ce qui est visible, avec un point de vue divin. C'est très facile de dire parce que je ne vois pas une chose, ça c'est le raisonnement humain. Mais je vais vous montrer que c'est un peu réducteur, c'est très réducteur. C'est pas parce que vous ne voyez pas une chose que cette chose n'existe pas. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi ou vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, venez au temps de questions-réponses et vous nous expliquerez pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation. Parce que là on n'a pas le temps de rentrer dans un débat, sinon c'est pas à midi et 5 qu'on va finir, mais... Je voudrais lire un autre texte dans Romains, chapitre 1 et verset 18 à 20. Romains chapitre 1 verset 18. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ah, la vérité, qu'est-ce que la vérité? Grande question. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. On voit quelque chose d'invisible? Voyez-vous quelque chose d'invisible? Comment c'est possible de voir ce qui est invisible? Et pourtant ça se voit. Peut-être pour ceux qui sont allés en France à Paris, dans le musée, dans le plus grand musée du monde, le Louvre, vous êtes allé voir le tableau de la Joconde. D'accord? Et quand on contemple, alors ils font tous la queue pour aller voir ce tableau, quand on voit ce tableau, on n'imagine pas que c'est un bout de tissu, et puis il a plus de la peinture, et puis la peinture, par hasard, elle est tombée comme ça, et ça a fait la Joconde. D'accord? On sait très bien que derrière ce tableau, il y a un maître, il y a un peintre, il y a un artiste. Léonard de Vinci qui a créé cette peinture. D'accord? Et pourtant, quand on regarde la création dans son ensemble, qu'on voit comment juste les saisons, le soleil, la terre tourne, la lune ne s'écrase pas sur la terre, les marées, la saison avec le cycle de l'eau, des pluies, de tout, les étoiles qui sont dans le ciel. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas juste à quelques centaines de mètres qu'elles sont, ou des milliers de kilomètres qu'elles sont, c'est des milliards de milliards de milliards de kilomètres. Et tout ça, ça tourne, tout ça, ça fonctionne. Et nous, on nous dit scientifiquement, mes amis, tout ça, c'est juste un hasard. Un bon coup de beau, c'est du bol. C'est tombé que paf, ha, c'est tombé que tout s'est organisé et que tout continue de fonctionner comme ça. Et quand on dit, et quand on pense aux chrétiens ou aux croyants, ils disent, et vous croyez qu'il y a un Dieu qui aurait créé ça? Et les gens nous disent, mais vous avez réfléchi un petit peu? Non, mais est-ce que le monde a réfléchi à ce qu'il est en train de dire? Qu'on vient de nulle part? Qu'on vient du hasard? Qu'on vient du néant? Parce que ça a des conséquences, mes amis. Si on vient de nulle part, je vais vous dire, vous savez ce que vous êtes aujourd'hui? Un accident. Juste un accident. Juste un accident. Que tu meurs à 10 ans, que tu meurs à 20 ans, que tu meurs à 30 ans, c'est la même chose. Mais ces gens-là, quand un enfant meurt, quand un jeune adolescent meurt, il lève le poing contre Dieu. Il dit, s'il y avait un Dieu, c'est pas juste qu'il fasse ça. C'est pas vrai? C'est ce qu'on fait. Mais on croit pas en Dieu, mais on lève le poing contre lui. Ça n'a pas de sens. Il y a personne à qui se plaindre. Il n'y a pas un bureau des réclamations. Comprenez? Tout ça pour vous dire que chacun d'entre nous, en réalité, nous avons des présupposés. Quand je disais tout à l'heure, je crois que ce que je vois, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on peut démontrer l'existence de Dieu? Non. Est-ce qu'on peut démontrer la non-existence de Dieu? Non plus. Ça veut dire que les croyants comme ceux qui ne croient pas, en fait, ils croient dans des choses différentes. En fait, on croit tous. La question, c'est en quoi est-ce que je crois? Et pourquoi est-ce que je crois dans ce que je crois? Parce que, en fait, c'est présupposé. En mathématiques, on appelle ça des axiomes. Vous vous rappelez, quand vous avez fait la géométrie, ou l'algèbre, on a posé des axiomes. C'est-à-dire que c'est des choses évidentes qu'on ne peut pas démontrer, qui sont à la base de tout le reste. Et dans la vie, il y a deux présuppositions qu'on peut faire. Dieu n'existe pas, Dieu existe. Il n'y en a pas trois. C'est ou il existe ou il n'existe pas. Après, qui il est, et là on n'a pas le temps de rentrer dans le sujet ce matin, mais c'est juste pour réfléchir. Si Dieu existe, si Dieu n'existe pas, voilà, Dieu n'existe pas, on est juste le résultat du hasard. On est juste un accident. Vous comprenez pourquoi le monde va moralement pas bien? Pas simplement parce que il s'enferme dans sa folie, dans le péché. Mais le moral, même le moral, on n'a pas le moral. Je sais pas comment ça se passe en Suisse, mais en France, on n'a pas le moral. On n'a pas le moral. On est tout le temps en train de se plaindre. Vous regardez les infos, on est tout le temps en train de faire grève. On n'est pas content. On change la retraite, on n'est pas content. On change ceci, on n'est pas content. On n'est jamais content. Pourquoi on va si mal? Peut-être parce qu'on a perdu le sens. Parce que si on est juste un accident, si on ne sait pas d'où on vient et on ne sait pas où on va après la mort, c'est compliqué de trouver un sens à cette vie. Et c'est pour ça que les gens aujourd'hui sont réduits à juste... Et c'est la Bible qui le dit, c'est Paul qui le dit dans Corinthiens, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Mais là, ça ne veut pas dire qu'on pense beaucoup. Hein. Vous savez, on critique les gens de l'Antiquité parce qu'ils avaient les jeux du cirque. D'accord? Donne-nous les jeux du cirque et du pain, ça suffit. Aujourd'hui, c'est pareil. Donne-nous la télé, Internet et de quoi manger, ça suffit. On n'a pas besoin de penser, de réfléchir à pourquoi. D'où on vient, pourquoi on est là, où on va. Ces grandes questions... l'humanité a répondu à ces grandes questions? Parce que si je vous dis, vous allez où après? Ben, si on n'est pas croyant en Dieu. Et vous savez, quand on a le droit, hein, on a le droit de croire ce qu'on veut croire. Hein. Ça c'est notre liberté. C'est pour ça que certaines personnes qui ne veulent pas croire en Dieu, ne veulent pas croire quand on regarde la création, que tout ça c'est pas arrivé par hasard, mais il y a un créateur et que, bien sûr, il nous a parlé, nous on sait où il nous a parlé par ce livre. Hein. C'est pas lui qui l'a écrit, mais il a inspiré ceux qui l'ont écrit. C'est pas juste une personne, c'est 40 auteurs sur 1500 ans qui nous révèlent qui il est. Parce que savoir qui est Dieu, comment on peut savoir qui est Dieu? Moi je pense qu'il est carré. Ah non, moi je pense qu'il est rond. Ah non, moi je pense qu'il est rouge. Ah non, moi je pense qu'il est... Non, Dieu il est ce que la parole de Dieu dit. Hein, comment il s'est révélé à l'humanité. J'ai perdu le fil. Mais ça allait bien se terminer pourtant. Ça va bien se terminer. Hein? Voilà, on ne veut peut-être pas trop réfléchir. On veut juste s'amuser aujourd'hui, on veut consommer. Si on est bon consommateur, on est des bonnes personnes, on rentre bien dans les cases. D'accord ? Mais dès qu'on commence à réfléchir, à poser des questions, à réfléchir, mais où, qu'est-ce qu'il y a après ? Qu'est-ce qu'il y a après ? J'aimerais vous dire, et là je suis obligé, tu peux venir me tenir le micro ? S'il te plaît. Anime, on a un micro-cravate. Il va falloir que vous vous équipiez avec un micro-cravate. Voilà, mets-toi sur le côté pour que je puisse voir. Alors imaginez, aujourd'hui, dans ce monde dans lequel on vit, on pense que la vie c'est ça. Ma naissance, la mort. D'accord ? Et ça, c'est tout ce que je vis, ça. C'est tout ce que je vois, c'est tout ce que je touche. C'est tout ça, c'est la vie, ça. D'accord ? Mais ça, c'est avec le présupposé qu'il n'y a pas de Dieu, qu'on vient de nulle part et qu'après, il n'y a plus rien. Mais il faut beaucoup de foi pour croire ça. Parce que c'est là, c'est par la foi qu'on le croit qu'il n'y a pas de Dieu. Mais s'il y a un Dieu maintenant, cette vie-là, en réalité, ma naissance à ma mort, puisque je suis, j'ai la vie éternelle, elle commence là et elle ne s'arrête plus. Et en comparaison, ce bout-là, en fait, c'est juste un craquement d'allumette. C'est juste une vapeur, la Bible dit dans Jacques. C'est juste, hop, c'est là, c'est fini. Et nous, on en fait tout un plat. Nous, on mise tout sur ça. Et je voulais nous encourager, merci. Je voulais nous encourager, en tant que croyants, on fait bien de croire dans ce livre. Pourquoi ? Parce que c'est l'assurance des choses qu'on espère. Un jour, dans Corinthiens 15, 19, il est dit, si nous espérons en Christ seulement pour cette vie, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notre espérance, elle s'arrête pas ici simplement pour avoir une vie tranquille. Parce que c'est pas vrai, la vie est compliquée pour tout le monde, chrétien ou non chrétien. Mais en tant que chrétien, on a une espérance. En tant que chrétien, on a une assurance. En tant que chrétien, on va vivre des choses extraordinaires. Des difficultés comme tout le monde, on peut perdre son travail, on peut perdre son épouse, on peut tomber malade. Mais on a une espérance. On a une espérance. On a un avenir. On le voit pas, mais on va le, par notre vie de foi, on va le découvrir et même on va le démontrer aux autres. Que notre Dieu, qui est invisible, est bien pourtant vivant et il agit et il est un acteur dans notre vie. Et on fait pas de la religion pour faire de la religion en espérant être accepté par Dieu. On l'a entendu tout ce week-end. Nous sommes par la foi en Jésus-Christ, par son sang à la croix, rachetés, acceptés, scellés, enfants de Dieu, pour toujours. Et maintenant, on a une vie extraordinaire à vivre. Et une vie où on réfléchit. C'est pas juste, oh, je suis chrétien, je ne dois plus réfléchir. Je suis chrétien, je réfléchis. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Je sais pourquoi je vis. Je sais, oui, il y a la souffrance. Et qu'on a une réponse, nous, en tant que chrétiens, à la souffrance. Le monde athée n'a pas de réponse. Il nous accuse de ne pas avoir... Mais nous, on a une réponse. Notre réponse, c'est que le Christ lui-même, Dieu lui-même est venu et vit notre souffrance, a vécu notre souffrance, s'identifie à notre souffrance. Et dans la souffrance, on n'a pas besoin de raisonnement et de grandes explications, on a besoin de quelqu'un qui nous tienne et qui nous serre dans ses bras. C'est pas vrai ? Et qui nous donne une espérance. Et c'est ce qu'il est venu faire par sa résurrection. On a une espérance. Amen ? Que Dieu vous bénisse.